Il était très difficile de pénétrer dans l'intimité réelle d'un homme comme lui, mais je peux vous assurer qu'il ressentait de façon précise l'espèce de distorsion dont je parle, à savoir que le monde est donné et qu'en même temps il est refusé, et que l'homme, suivant le poème de Trakl, justement, est fait effectivement bien un étranger. Il est à la fois cette duplicité de la pensée qui est effectivement la clé pour y voir clair et pour y comprendre quoi que ce soit, est bien rassemblée dans le fameux vers d'Antigone qui est cité, je crois, dans l'introduction à la métaphysique, « Pantoporos aporos et pudem erkletai ». Tout dépend de la ponctuation, là où on la met, Hölderlin arrête là la phrase, ce qui veut dire « Pantoporos, riche de toutes sortes d'astuces, disons, l'homme technique, aporos, en même temps inexpérimenté et bloqué, et pudem erkletai, il va vers le rien. » Mais vers le rien, qui n'est pas le nihilisme, vers un rien qui est simplement l'espèce de vibration intérieure à la présence, qui me semble être l'expérience même de l'être. Alors ça, on est installé, autrement dit, en tant qu'homme, dans une distorsion, dans une sorte d'éclatement. Et je pense que ce que Heidegger pense de l'homme, c'est qu'il n'est homme, et profondément homme, que quand il accepte cette dualité-là en tant qu'inconfortable. Il n'y a pas de recette précise, ni même immédiate.
Mais croyez-vous, Roger Munier, que cette expérience de l'autre, cette place libre pour l'absence, ne soit pas chez Heidegger l'expérience du sacré?
Oui, on pourrait probablement y voir le prodrome de l'expérience du sacré, mais pas l'expérience elle-même.
Henri Biro n'a pas l'air d'accord avec...
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. D'abord, si vous le permettez, mon cher Munier, je ne crois pas qu'on puisse dire, mais c'est une question finalement de vocabulaire, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'être ou le « il y a » tel que j'ai essayé de le définir soit l'absence, pour la bonne raison que Heidegger, dans ses derniers opuscules, le définit explicitement comme présence, comme parousie ou comme présence. Ceci posé, c'est pourquoi notre divergence est tout à fait relative et purement verbale, il est non moins vrai que dans cette présence elle-même, il y a un constant mouvement de rétraction, de rétention ou de réticence qui fait que l'être, à la faveur d'une prodigalité que je qualifierais de réticente ou d'une donation pour ainsi dire soustrayante, ne cesse pas de se dérober en même temps qu'il se destine à la pensée, et qu'on ne comprend rien à la pensée de Heidegger si on n'entre pas dans l'intimité de ce double mouvement par lequel l'être se donne pour être pensé et se donne à la pensée pour être pensé, oui, mais se donne sur le mode du refus. D'autre part, la métaphore de la lumière, et ça, moi aussi je le tiens d'une conversation déjà ancienne avec Heidegger, est fondamentalement dangereuse, car elle risque de nous conduire vers des interprétations aberrantes de Heidegger. Dans les derniers écrits, vous savez aussi bien que moi tous, que Heidegger montre comment, en allemand, le mot « lumière » (das Licht) doit être interprété à partir de l'adjectif « leicht » qui veut dire « léger ». Au fond, comme en anglais, « light » veut dire à la fois la lumière et en même temps désigne l'adjectif « léger ». Donc il faut penser l'être, non pas en termes de lumière, au sens lointainement platonicien et biblique de cette notion, qui ferait que Heidegger, d'une manière ou de l'autre, serait reconduit dans les chemins de la pensée occidentale ou à la fois grecque et judéo-chrétienne, mais au contraire comme allègement, comme dégagement, comme ouverture, comme apérité, qui, dans son inconsistance même, donne faveur et licence à tout ce qui est de pouvoir être.
Mais si il n'y avait pas cette expérience du sacré chez Heidegger, puisque puisque vous refusez ce terme. Inversement...
Non, je dis qu'il doit y avoir chez Heidegger une pensée de l'essence du sacré, mais pas du tout d'expérience du sacré.
Oui, mais enfin, est-ce que c'est...
Car enfin, les textes de Heidegger sur le sacré, en dehors des commentaires sur les poètes, se réduisent à très peu de choses. Et il est bien trop conscient de la différence abyssale qui doit séparer penseurs et poètes pour vouloir établir une sorte de passerelle, ou comme il le dirait volontiers de pont aux ânes, entre la pensée et la poésie. La seule tâche de la pensée, c'est de penser ce que peut être l'essence du sacré.
Oui,
ah oui,
le problème.
Il n'y a pas l'expérience du sacré ni l'expérience
mais
mystique.
Mais quel intérêt
le problème est tout de même.
Sacré.
Non, mais le problème est tout de même de savoir ce qui va sortir de cette définition dont le formalisme est absolument pur et escarpé, je le reconnais. Chez Heidegger, c'est certain. Chez vous-même, tel que vous le présentez, Henri Biraud, c'est sûr.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il peut sortir? Autrement dit, allons-nous indéfiniment répéter ces mêmes évidences ténues, précises, irréfutables? Je crois que s'il y a une ouverture quelconque, elle peut quand même être du côté de ce qui est au moins rendu possible par cette première approche de pensée qui n'est que de pensée. Vous avez bien raison de le souligner.
Oui, c'est toujours l'expérience de la pensée.
Quand ça dit c'est
l'autre, c'est pas autre chose.
À propos, d'abord je voudrais revenir 2 secondes sur l'expression pertinente de Biraud, pensée de la double pensée, on pourrait dire pensée de la double vie. Et là, je pose la question, est-ce que Heidegger ne rejoint pas la métaphysique, c'est-à-dire le dualisme, comme il y avait la dualité entre la foi et le savoir, comme dans le marxisme, il y a la dualité de la tactique chaque fois présente, et l'eschatologie ou l'utopie future, dans la psychanalyse, ceci et cela. C'est-à-dire, si Heidegger ne rentre pas finalement dans le rang dont il est sorti, étant à la fois dedans et dehors, par accomplissant la métaphysique et restant métaphysique, et devenant un penseur de l'expérience, mais ne nous montrant à aucun moment le chemin de l'expérience. Il parle de l'expérience, qu'elle soit de ceci ou de cela, mais elle n'est jamais expérience. Ce n'est pas par hasard qu'il a si longuement et si profondément commenté le texte de Hegel sur l'expérience de la conscience.
Heidegger, d'une part, remonte bien en deçà de la métaphysique, et d'autre part va au-delà. C'est-à-dire que jamais il ne séjourne en quelque sorte dans les eaux moyennes de la métaphysique. Il y a une pensée de la technique, ou une vie qui se développe dans l'ordre de la technique. D'accord ? Bon, c'est pas de la métaphysique. Et d'autre part,
la technique est vue aussi comme la métaphysique solidifiée.
Si je conduis ma voiture, c'est pas de la métaphysique.
Oui et non.
En conséquence.
Non. Si je pense à l'essence de la technique, pour Heidegger, c'est pas non plus de la métaphysique. Donc, c'est plus ou moins de la métaphysique dans les deux cas, mais ce n'est jamais de la métaphysique.
Oui, et moi, voyez-vous, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'il y a un côté neutre et, pour ainsi dire, blafard. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout sur quel sol on se situe. Le problème pour moi, je dirais, il est tout simple. Je suis en face d'un arbre, est-ce que j'y suis différemment si je fais, à propos de cet arbre, l'expérience de l'être, ou si je ne la fais pas? Je demeure convaincu que Heidegger pense qu'un changement peut intervenir dans l'homme de telle sorte qu'il voit l'arbre différemment suivant qu'il fait ou ne fait pas l'expérience de l'être. Maintenant, comme tu l'as dit, Costas, c'est tout à fait vrai, il ne dit pas de quelle manière ça peut se passer lui-même. Pourquoi ? Parce que, comme Henri Biraud le souligne, il est un homme de la pensée et qu'il ne s'occupe pas de faire le pas vers l'expérience. Mais moi, ma question, je la répète de nouveau, parce que je demeure convaincu qu'elle n'est pas fausse par rapport à l'entreprise. Une fois que la pensée est à sa place, existe-t-il quelque chose d'ouvert du côté de l'expérience?
Mais Heidegger rejetterait cette dualité entre pensée et expérience.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Car pour lui, je m'excuse de vous avoir pris la parole.
Ah non, pas du tout.
C'est pour lui la même chose, ou plutôt la véritable pratique pour lui est une pensée. C'est-à-dire que la véritable expérience est une expérience que fait la pensée pour voir, pour diriger son regard autrement.
Mais une phrase, pardon, oui, pardon Michel, une phrase résume cela. Heidegger dit littéralement ceci, la pensée agit en tant qu'elle pense.
Oui, la pensée agit en tant qu'elle pense.
Donc il n'y a pas après à se demander quels sont les rapports entre pensée et action.
Mais je voulais dire quelque chose.
Et à faire descendre
le dernier, oui, d'accord. Mais le dernier séminaire qui devait avoir lieu devait, dans un premier temps, porter sur la vue phénoménologique. Et je me souviens que l'idée en est venue parce que j'étais avec précisément Henri Mongis chez lui. Et Mongis lui posait une question à laquelle Heidegger a répondu, et à un moment donné, il lui a dit, si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je ne peux pas vous l'expliquer.
Très bien.
Voilà.
Oui, ça, c'est bien. Il n'y a rien à attendre. C'est ça qui est bon.
Exactement.
C'est précisément le formalisme pur de cette
Mais
pensée.
Mais il y a, dans le fait que l'interlocuteur pouvait ou non voir, une démarche intérieure et un mouvement intérieur à au dit interlocuteur, qui est, moi, ce qui m'intéresse. Quand l'interlocuteur voit, à la vue phénoménologique, il y a du changement. Et je me demande s'il n'y a pas, dans les faits, pour ainsi dire, l'écho du changement au niveau de l'essence qu'Heidegger ne cesse de réclamer.
Parce que là, vous êtes quatre, entre guillemets, heideggeriens, et comme Heidegger vient de mourir la semaine dernière, il n'est pas encore temps, peut-être, de polémiquer à son sujet. Et en plus de ça, comme vous êtes heideggerien, vous vous en tenez un peu à la lettre de ce qu'il a écrit. Et alors, ça donne cette impression que vous remarquez, si je vous ai bien compris, de neutralité un peu gênante pour quelqu'un qui n'est pas de la partie. Parce qu'on se demande, après tout, qu'est-ce qu'ils en font
non,
pour eux.
Je ne crois pas qu'il y a une neutralité. Je crois que Heidegger voit la pensée
Chacun peut
comme...
Chacun peut faire sa confession.
Voit la pensée comme menacée. Je crois que c'est assez... il faut le voir tragiquement, même, si on veut dramatiser un peu les choses. Heidegger voit ce qu'il appelle la pensée méditante, la pensée de l'être, comme menacée de disparition. C'est une dimension qui est de plus en plus avalée par la dimension de la pensée calculante. Il y a cette double... C'est ce que vous vouliez dire avec la double pensée, le maintien de la double pensée.
Exactement.
C'est l'œil gardé sur la pensée calculante qui est notre destin historial d'hommes occidentaux, et la pensée méditante. Or, la pensée méditante, elle est fragile, elle est sur le point de disparaître, elle est quelque chose qui est peut-être une dernière flamme qui vacille, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dramatique et pas neutre.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se replonger dans les textes de la philosophie grecque et dans les poètes allemands? Ou y a-t-il une pensée qui serait fidèle à Heidegger, mais qui serait
non,
plus tournée vers le monde actuel?
Oui.
Henri Biraud.
Pardon. Je crois qu'il y a deux attitudes qui sont évidemment exclues. Ou bien une interprétation caricaturale de Heidegger ou sa négligence, la négligence pure et simple à l'égard de cette pensée. Bon, je crois que ceci est préjudiciable, non pas simplement pour des raisons de dévotion personnelle à l'égard de Heidegger, mais parce que Heidegger est et restera, j'en suis absolument convaincu, qu'on le veuille ou non, un des plus grands penseurs du monde. Je suis prêt à parier que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, on étudiera encore les textes de Heidegger, et il n'y a pas beaucoup de philosophes dont on puisse dire cela.
C'est sûr.
Car les modes philosophiques changent. Mais l'autre attitude, et je crois que par là je rejoins un peu l'inquiétude de mon ami Munier, l'autre attitude consiste en une sorte de dévotion, de mimétisme heideggerien, qui fait que, effectivement, on répète en quelque sorte, d'une façon pour ainsi dire religieuse, les mots clés de la chapelle heideggerienne. Je crois que cela, Heidegger lui-même l'aurait réfuté. C'est à chacun d'entre nous, pour son propre compte, de voir ce qu'il peut faire avec cette pensée et de voir comment et si elle peut modifier sa propre manière de penser, sa propre manière d'exister. Et je crois que justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ce qui me paraît profondément honnête et profondément salutaire dans la pensée de Heidegger, c'est ce que j'appellerais son formalisme, c'est-à-dire son refus de nous donner des recettes de morale.
Si Henri Biraud a raison et que Heidegger n'a pas lui-même dicté des règles de morale pour chacun de ses lecteurs, et que chacun de ses lecteurs doit les inventer pour son propre compte, il ne reste plus qu'à inviter les auditeurs, qu'ils soient philosophes ou non, à aller voir eux-mêmes dans cette œuvre touffue, mais riche en surprises et riche en plaisir et en jouissance même à le lire, car c'est un des plus grands penseurs, un des plus denses qui ait jamais existé. Et je vous remercie donc, Roger Munier, Henri Biraud, Michel Arr et Kostas Axelos.
C'était Hommage à Martin Heidegger par Philippe Nemo, première diffusion le 5 juin 1976 sur France Culture.